Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Écoutez avec l'oreille du cœur, c'est le thème du message du pape François pour la 56e journée mondiale de communication sociale, message publié lundi. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église. Nous vous donnerons également les nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Bénin, au Tchad et au Burkina Faso. Pour l'actualité sociale et politique africaine, nous reviendrons sur la situation au Burkina Faso avant de nous rendre au Mali, au Sénégal, au Burundi, entre autres. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Le 24 janvier, l'Église célèbre la mémoire de Saint François de Sales, patron des journalistes et des communicants. Le message du pape François pour la 56e journée mondiale de communication sociale a été rendu public à cette occasion. Un message dans lequel François invite à redécouvrir la dimension de l'écoute. Les précisions d'Olivier Bonnel.
Le pape a choisi cette année de s'arrêter sur le verbe « écouter » après « venir et voir », thème choisi l'an passé. Un verbe essentiel à redécouvrir, selon François, dans un monde où nous perdons la capacité d'écouter ceux qui sont en face de nous. L'écoute correspond au style humble de Dieu, souligne le pape, et le refus d'écouter finit souvent par devenir une agression envers l'autre. Un message qui rappelle aussi les écueils d'une fausse écoute, celle qui fait que même celui qui a une ouïe parfaite n'arrive pas à écouter l'autre, et François met en garde contre la surdité intérieure, pire que la surdité physique. L'écoute est aussi la condition d'une bonne communication, poursuit le pape dans ce message, à l'heure où les réseaux sociaux concentrent beaucoup le bruit du monde. François, qui s'inquiète notamment de la tentation d'écouter dans le dos des autres, que ce soit dans les médias ou dans la vie publique, la qualité d'écoute qui fait de la place à l'autre est plus que jamais nécessaire en cette période de pandémie. Un message dans lequel le pape invite aussi à cultiver l'écoute à l'intérieur même de l'Église, où il y a selon lui un grand besoin d'écouter et de s'écouter. C'est le don le plus précieux et le plus généreux que nous pouvons offrir les uns aux autres, souligne-t-il, en rappelant le chemin synodal qui s'est ouvert au mois d'octobre dernier. Le pape prie pour que ces synodes soient justement une occasion d'écoute réciproque, car, rappelle-t-il, la communication n'est pas le résultat de stratégies ni de programmes, mais se construit bien dans cette écoute réciproque entre frères et sœurs.
Le pape François a par ailleurs reçu lundi les participants au chapitre général de la congrégation Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin. Dans les discours qu'il leur a adressés, le Saint-Père a souligné les défis de la formation et de l'éducation de la personne humaine auxquels le monde fait face aujourd'hui. Ainsi a-t-il encouragé les chanoinesses de Saint-Augustin qui se dévouent à l'œuvre éducative à être des missionnaires et des communautés d'espérance et de joie afin de pallier à la tristesse individualiste qui mine le monde aujourd'hui. Face aux défis et aux dangers qui guettent les jeunes, je souhaite que votre engagement et votre enthousiasme forgés dans la force de l'Évangile leur redonne le goût de la vie et le désir de bâtir une société digne de ses noms, a dit François, qui a par ailleurs invité les sœurs à toujours rester dans la communion du Christ par la prière et à contribuer à ouvrir les nouveaux horizons et à créer des espaces de fraternité en s'inspirant de leur charisme. La congrégation Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin a été fondée par Saint-Pierre Fourier et la bienheureuse Alix Leclerc. Au Bénin, les évêques ont eu une journée de récollection en prélude à leur 65e assemblée plénière tenue le week-end dernier. Notre correspondant nous en fait le point.
La fin des travaux de la 65e session ordinaire plénière des évêques du Bénin, les 18, 19, 20 et 21 janvier 2022, a été marquée par une conférence de presse donnée au siège de la conférence épiscopale 6 à Kadjéon à Cotonou, le vendredi 21 janvier par l'évêque d'Abomé et porte-parole de l'institution, Monseigneur Eugène Cyril Honlekan. Parmi les multiples questions d'intérêt commun examinées au plan strictement ecclésial, les prélats ont abordé notamment l'entrée en vigueur le premier dimanche du temps de l'avant-dernier, la nouvelle tradition du mystère romain pour l'espace francophone, en fixant au niveau de l'Église catholique au Bénin son intégration aux célébrations liturgiques à partir du dimanche 6 mars 2022, premier dimanche de carême. Au plan purement social, les questions du panier de la ménagère, de la sécurité des personnes et des biens et surtout de la sacralité de la vie humaine ont été également au cœur des débats des évêques. Monseigneur Hundekon nous en a livré quelques détails.
Les évêques du Bénin sont préoccupés par la flambée des prix sur les marchés intérieurs qui réduit considérablement le pouvoir d'achat de certaines couches de notre population. Ils encouragent le gouvernement à prendre les mesures sociales nécessaires pour soulager les populations, surtout les couches sociales les plus défavorisées.
Guy Dosunyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi à la rencontre de l'Évangile. C'est le titre du livre écrit sur le premier évêque tchadien. La présentation de ce livre sur Monseigneur Ngarteri a été assurée par l'auteur, l'abbé Benjamin Bamani, prêtre du diocèse de Lahi, ainsi que par Monseigneur Edmond Jitangar, archevêque de N'Djamena, toujours au Tchad. Les détails avec notre correspondant.
Deux temps forts ont marqué ce rendez-vous. Présentation de l'œuvre et le débat avec le public. Le premier temps fort a vu deux interventions. Monseigneur Edmond Jitangar qui a préfacé le livre et l'auteur du livre en question. Pour Monseigneur Edmond Jitangar, Vatican II avait ouvert un boulevard pour l'adaptation et le renouveau liturgique. L'abbé Mathias Ngarteri d'alors s'y est jeté pour donner le meilleur de lui-même en composant une première messe entièrement chantée en Sara. Il conclut en félicitant l'auteur du livre d'avoir fait un travail de mémoire non seulement pour l'Église, mais aussi pour la nation. Pour l'auteur du livre, l'abbé Benjamin Bamani, le premier évêque tchadien s'est mêlé au quotidien de la nation tchadienne, à la fois comme citoyen et pasteur. Il a aidé à l'inculturation de l'Évangile d'une part, et a œuvré d'autre part comme promoteur de la paix et du dialogue dans la vie sociopolitique du pays. Selon l'auteur, la vie de ce grand homme doit interpeller. Elle est un héritage à entretenir et à fructifier, a-t-il conclu. Les préoccupations du public tournaient autour des motivations de l'auteur et de comment le défunt évêque a-t-il concilié sa vie de pasteur à celle du citoyen tchadien. Pour l'auteur, c'est sans conteste que le personnage était un visionnaire, malgré qu'il fût parfois incompris dans ses démarches. Notons que c'est une œuvre autobiographique, mais qui traite également de la vie de l'Église et du quotidien du premier évêque tchadien. Séverin Dingatolum pour Radio Vatican.
Au Burkina Faso, les médias de l'archidiocèse de Ouagadougou ont choisi le troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole, pour effectuer leur rentrée médiatique de l'année 2022. Les détails.
Comme pour célébrer de façon amplifiée le troisième dimanche du temps ordinaire institué par le pape François par le motu proprio a peruit illis du 30 septembre 2019 comme dimanche de la parole, les médias de l'archidiocèse de Ouagadougou en ont fait le jour de leur rentrée. Cette rentrée médiatique 2022 s'est effectuée sous le thème suivant. Écoutez la parole de Dieu par les médias diocésains, poumon spirituel d'une société réconciliée et sauvée, soutenir et promouvoir. Et c'est l'évêque de Waïgouya, Monseigneur Justin Kiedga, qui a présidé cette messe de rentrée médiatique à la paroisse Saint-André de Saba, en périphérie de Ouagadougou. Dans son homélie, Monseigneur fait justement le lien entre médias et paroles de Dieu du jour.
Dieu se sert des outils pour sa transmission de sa parole. Les médias, vous êtes convaincus avec moi, constituent les moyens privilégiés pour cette transmission de la parole de Dieu.
Il va même plus loin quand il l'affirme.
Notre Dieu est alors un Dieu des médias, un parfait communicateur, un prototype par excellence du tout bon journaliste.
C'est pourquoi, conclut-il,
de nos jours, chers frères et sœurs, c'est un impérieux devoir pour nous de nous servir des moyens de communication moderne pour faire résonner au mieux l'évangile dans notre cœur.
Paul Ouagadougou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La situation au Burkina Faso restait incertaine lundi. Plusieurs médias ont annoncé l'arrestation du président Rochemark Christian Kabore, du chef du Parlement et des ministres par des mutins. Il serait conduit à la caserne Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou au lendemain des mutineries dans des camps militaires dans le pays. Les militaires seraient révoltés contre l'impuissance de l'État à endiguer les violences djihadistes dans le pays. Aussi, les soldats mutins réclameraient le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés pour lutter contre les djihadistes qui ne cessent d'étendre leur emprise depuis 2015 dans le pays. Les violences des groupes djihadistes ont fait près de 7 ans et plus de 2000 morts et contraint plus d'un million et demi de personnes à fuir leur foyer. Nous avons joint à Ouagadougou le père Ludovic Touguma, prêtre de la communauté missionnaire de Villa Regia.
En ce qui concerne la situation actuelle, alors c'est assez tranquille à Ouagadougou. C'est sûr qu'une note était déjà sortie hier pour suspendre les activités scolaires, vu qu'on était dans une confusion par rapport à la suite des événements. Mais la population est sortie et va à ses occupations normalement. On peut dire que la confusion est le plus psychologique, manque d'informations. Nous avons quelques informations sporadiques sur l'évolution de la situation. La détention du président reste pour la population de Ouagadougou encore une supposition. Ce n'est pas encore clair pour personne. On n'a pas d'informations officielles. Alors, donc, la population est assez tranquille. Il n'y a pas de mouvement de masse. Il n'y a pas de tir par-ci, par-là. Il y a un calme vraiment, on peut dire, un peu plus tendu en attendant une information officielle. Le président serait en détention. Il y aurait des militaires devant la télévision nationale. Et donc, on s'attend pour une information officielle à la télévision nationale. La télévision ne fait pas d'émission normale. Ça veut dire que les activités tournent au ralenti en attendant une déclaration officielle.
Et alors, quelles seraient les causes de ce soulèvement qui a amené jusqu'à l'arrestation du président et de certains membres du gouvernement?
Tout ce que nous savons jusque-là, dans les revendications les plus récurrentes dans ces derniers temps, aussi bien de la population que de l'armée, c'était vraiment l'incapacité à faire face à la situation. Le manque de moyens et aussi l'impunité liée aux failles au sein de l'armée et de la hiérarchie surtout. Ces deux revendications étaient les majeures qui ont poussé à cette mutinerie.
Voilà, depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé, le père Ludovic Touguma, prêtre de la communauté missionnaire de Villa Regia. Nous restons en attente de l'évolution de la situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au Mali voisin, un camp de la mission des Nations Unies, MINUSMA, à Menaka, dans le nord, a été visé dimanche par des tirs d'obus du mortier qui n'ont pas fait de victimes. Aucune victime ou dégât n'a été signalé, selon la MINUSMA, qui n'a pas précisé qui sont les auteurs de ces tirs. Cette attaque est survenue quelques heures après la mort d'un soldat français lors d'une attaque au mortier samedi contre les camps des Gao dans le nord du Mali.
Radio Vatican, France et Afrique. Stanislas Kambashi.
La coalition au pouvoir au Sénégal a essuyé une cuisante défaite à Dakar et dans d'autres grandes villes lors des élections locales de dimanche, ayant valeur des tests avant les échéances nationales à venir, selon les résultats provisoires rapportés lundi par les médias. Les autorités burundaises n'ont pas mené d'enquête transparente, crédible et impartiale sur l'incendie de la prison centrale de Gitega le 7 décembre, a déploré lundi Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme, estimant que plusieurs centaines de prisonniers pourraient avoir été tués ou blessés.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Dans notre magazine sur la santé, nous allons parler des maladies cardiovasculaires avec le docteur Deborah Camille Mukaz, chercheur postdoctoral à l'Université de Vermont aux États-Unis d'Amérique, spécialiste des maladies cardiovasculaires et experte en épidémiologie sociale originaire de la République démocratique du Congo. Dans cet entretien, elle nous parle notamment de ses recherches sur la ségrégation résidentielle et la thromboinflammation pour lesquelles elle a reçu en 2021 un prix de l'American Heart Association. Elle commence par nous éclairer sur ce que sont les maladies cardiovasculaires. On l'écoute.
Les maladies cardiovasculaires, comme le nom le dit, sont liées aux vaisseaux sanguins. Nous avons les cardiopathies coronariennes qui touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque. Nous avons les maladies cérébrovasculaires qui touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Nous avons les artériopathies périphériques qui touchent le vaisseau sanguin qui alimente les bras et les jambes. Nous avons les cardiopathies rhumatismales qui affectent le muscle et les valves cardiaques et résultent d'un rhumatisme articulaire aigu. Nous avons aussi les malformations cardiaques congénitales, les malformations de la structure du cœur déjà présentes à la naissance Et nous avons aussi les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires, qui sont les obstructions des veines des jambes par un caillot sanguin, susceptible de se libérer et de migrer vers le cœur ou les poumons. Alors, comme vous le voyez, ces maladies sont liées au vaisseau sanguin et puis elles sont liées au cœur.
Est-ce que nous disposons des chiffres par rapport à ces malades qui souffrent de ces pathologies?
Ce que nous savons à propos des décès, c'est qu'on estime environ 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale. Et plus de 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est-à-dire des pays qu'on voit souvent en Afrique et en Asie.
Docteur Moukaz, nous voyons que vous vous intéressez de près à ces maladies cardiovasculaires. Et suite à vos recherches, vous venez d'obtenir un prix de l'American Heart Association. Pouvez-vous nous parler un peu de vos recherches et de la signification de ce prix?
Ma recherche est sur les maladies cardiovasculaires. Je travaille dans une très grande étude américaine qui s'appelle le Regards or Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke. C'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de comprendre les raisons pour les différences géographiques raciales dans les maladies cérébrovasculaires et les maladies connexes parmi ces risques que nous avons l'hypertension. Pour ma recherche, je suis en train d'être formée en tant qu'épidémiologiste sociale et moléculaire. Quand on parle d'épidémiologie sociale, on voit les facteurs sociaux et ces facteurs structurels qui influencent les maladies cardiovasculaires. Et quand on voit l'épidémiologie moléculaire, nous voyons les molécules, nous voyons les biomarqueurs de l'inflammation, les biomarqueurs de la coagulation et d'autres biomarqueurs. Alors, pour le prix que j'ai obtenu avec l'American Heart Association, c'est un prix pour me permettre de faire ma recherche sur la ségrégation résidentielle, la thromboinflammation et l'hypertension.
Docteur Debrad, si j'ai bien compris, selon vos recherches, les maladies cardiovasculaires seraient liées à des facteurs sociaux et même biologiques?
Oui, spécialement aussi aux États-Unis, définitivement, elles sont liées à des facteurs sociaux et des facteurs biologiques. L'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse tellement à ces facteurs sociaux, c'est que ces facteurs sociaux, surtout le racisme structurel, est l'une des plus grandes causes, sinon la plus grande cause des différences raciales entre les Noirs et les Blancs ici aux États-Unis. Et l'évidence est en train de montrer que ces facteurs sociaux, tels que le racisme, qui sont vraiment intenses, vont aussi influencer la biologie, c'est-à-dire ils vont aussi influencer ces biomarqueurs qui, d'une certaine façon, vont aussi jouer un rôle dans l'apparition des maladies telles que l'hypertension.
Donc, nous pouvons dire que les maladies cardiovasculaires sont liées aussi à l'environnement psychologique ou à l'état psychologique des individus.
Oui, c'est l'environnement psychologique. C'est... Quand on voit le racisme structurel, comment on le définit? Le racisme structurel, c'est vraiment une question de ressources. Les ressources, c'est comment est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Qui sont les docteurs dans les hôpitaux? Quelles sont les mesures de prévention qui sont mises pour une population spéciale? Comme je l'ai dit, je m'intéresse à la ségrégation résidentielle, c'est-à-dire que il y avait des lois vraiment spécifiques qui faisaient que les Noirs soient mis dans des endroits où il n'y a pas de ressources. Quand il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas beaucoup de docteurs, il n'y a pas beaucoup de parcs où vous pouvez courir, faire de l'exercice, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez acheter de la nourriture fraîche, vous n'avez pas beaucoup d'argent, et comme vous l'avez mentionné, vous avez des questions de stress. Et c'est carrément un système qui vous met dans des conditions qui sont extrêmement nuisibles, du point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue socio-économique, d'un point de vue quand il s'agit d'autres ressources qui peuvent aider votre santé cardiovasculaire.
Vos recherches sont vraiment basées sur le contexte américain, mais comme nous le savons, les maladies cardiovasculaires sont un problème de santé publique mondiale. Un mot de la fin, dans quelle mesure elles peuvent concerner le contexte africain?
Mes recherches concernent le contexte africain puisque, d'une certaine manière, nous avons beaucoup de conversations à propos de le racisme biologique. Cette idée que les Noirs ont une biologie vraiment spéciale qui fait à ceux qui sont plus prônes à développer certaines de ces maladies cardiovasculaires. Ma recherche peut prouver que ici aux États-Unis, les Noirs américains qui sont nos cousins, qui sont d'origine africaine, les raisons pour lesquelles nous voyons ces maladies cardiovasculaires sont beaucoup plus environnementales. Alors ça va aider. Quand on commence à considérer ces facteurs beaucoup plus sociaux quand il s'agit des maladies cardiovasculaires, et même quand il s'agit du contexte africain, qu'on commence à regarder beaucoup plus aux ressources que nous avons dans les pays africains pour la prévention et le traitement de ces maladies cardiovasculaires.
C'était le docteur Deborah Kamen Mukaz, chercheur postdoctoral à l'Université de Vermont aux États-Unis d'Amérique. Elle répondait aux questions de Christian Combé sur les maladies cardiovasculaires. Le 24 janvier, journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, c'est le thème de cette rubrique que nous présente Donatien Niembo.
Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. C'est l'UNESCO qui a proclamé chaque 24 janvier journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. C'était à l'occasion de sa 40e session de la conférence générale en 2019. Cette journée, il est intéressant de le souligner, célèbre les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier et les promeut comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix. En tant que source riche du patrimoine mondial commun, la promotion de la culture africaine et afro-descendante est indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général. Au mois de décembre dernier, l'UNESCO avait inscrit plusieurs éléments culturels africains à son patrimoine immatériel. Sur la liste, la rumba congolaise dont nous parlons dans ce numéro avec le professeur Yokalie Mudaba, qui est directeur général de l'Institut National des Arts à Kinshasa, la capitale congolaise. Le professeur Yoka nous partage ses sentiments après cette inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On l'écoute.
Beaucoup d'émotions parce que ça a été un long parcours. C'est depuis une dizaine d'années que nous sommes sur ce chantier-là. Mais vraiment, véritablement, c'est depuis 5 ans, quand nous sommes associés avec nos collègues du Congo-Brazzaville, que la marche a été plus précipitée. Deuxièmement, en plus de l'émotion, c'est la fierté. Parce que, vous savez, la rumba n'a pas toujours une bonne réputation. Elle a toujours été considérée comme une opération marginale, à la limite de la voyoucratie. Et donc, pour nous, c'était un devoir scientifique de pouvoir lui restituer ses palmes d'une manifestation populaire, mais qui est en même temps l'expression de notre cohésion nationale, l'expression de notre passion de vivre, l'expression de notre résistance, de notre résilience. Et donc nous avons tenu à mettre toute notre énergie intellectuelle à pouvoir justifier le bien fondé de cette candidature au niveau international.
Puisque nous parlons de la rumba, une question par laquelle j'aurais peut-être dû commencer, c'est quoi la rumba?
Sans entrer dans les détails très techniques musicologiques, mais la rumba, c'est une des composantes de la musique congolaise moderne. Elle se caractérise par le fait qu'elle est une musique essentiellement urbaine, née essentiellement à Kinshasa et à Brazzaville, et avec des caractéristiques extrêmement populaires, notamment la langue lingala. La langue lingala a été portée par la musique congolaise moderne, mais je dirais aussi que la musique congolaise moderne a été portée par le lingala. C'est une musique, c'est une danse extrêmement animée, mais extrêmement variée. Vous savez, j'ai un ami de la République du Congo, paix à son âme, M. Fumu, qui disait que le rythme de la rumba congolaise, c'est la cadence du fleuve Congo. La cadence du fleuve Congo, avec ses ondulations trémoussantes, dandinantes, avec ses ressacs au calme trompeur, avec ses soukousses, avec ses secousses vertigineuses, avec aussi ses élans impétueux vers la béance de l'océan. N'est-ce pas beau, ça?
Professeur, il faut reconnaître que cette reconnaissance de la rumba intervient à un moment particulier de l'histoire de la musique congolaise avec ce que l'on appelle le phénomène combattant. Ils estiment que cette musique contribue à endormir la population. D'ailleurs, vous avez dit que cette musique avait une mauvaise réputation. Elle est très souvent associée à la voyoucratie.
Je pense que notre démarche a justement été la contre-valeur, le contre-point de tout ce préjugé. Pourquoi ? Mais parce que ceux qui disent que la rumba est à la limite de la marginalité, ce sont ceux qui écoutent activement cette musique. Mais si vous écoutez attentivement cette musique, hier comme aujourd'hui, il y a des leçons de morale. Par exemple, Congo à venir.
Congo de Mboka, Mboka Ngomo Kengeli, Koi, Mboka Ngomo Kengeli, Léopard.
Le temps, la chanson de 1964 de Taboulé, le temps où il était facile de jouer avec le Congo, ce temps est dévolu. Maintenant, rassemblons-nous et faisons partir le Congo sur d'autres rails. Il y en a d'autres encore, toutes ces élégies sur Lumumba, héros national, par Kabasele. Donc, il y a tout dans la rumba congolaise. Ce qui nous a importé pour faire ce plaidoyer, c'est le côté mobilisateur, le côté conscience, le côté progressiste de cette musique-là. Et elle est juste.
C'était le professeur Yokalie Mudaba, directeur général de l'Institut national des arts de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il était au micro des Donatien Nyembo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que prend fin notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Afrique.